Il est impossible de présenter une émission sur la Nouvelle-Calédonie sans évoquer la mémoire de Maurice Bitter. Maurice était un écrivain et un journaliste dont les livres et les nombreux articles étaient autant de voyages fascinants vers des pays de rêves et de lumière. Maurice était un musicien passionné. Mais Maurice était avant tout un infatigable voyageur. Des côtes de l'Amérique latine jusqu'à l'Asie du Sud-Est, en passant par la Polynésie, les Nouvelles-Hébrides, devenues aujourd'hui l'État du Vanuatu, et bien sûr la Nouvelle-Calédonie, l'ethnographe qu'il était aussi avait su collecter un ensemble unique de musiques lointaines et envoûtantes. Entre deux voyages, Maurice posait un temps ses bagages et laissait vagabonder son âme, au hasard des rayons de sa boutique. Lorsqu'on entrait dans la librairie du Pacifique, c'était comme si l'on débarquait sur les quais de notre monde. On trouvait dans cette véritable caverne d'Ali Baba des produits exotiques. La collection complète des disques contenant ces précieux enregistrements. Et tous les ouvrages écrits sur cette partie du monde. De quoi combler à la fois l'amateur le plus éclairé et le chercheur le plus exigeant. Ce soir, pour effectuer le grand voyage qui va nous mener jusqu'au rivage de la Nouvelle-Calédonie, pas besoin d'avion, ni même d'un bateau. Il nous suffira simplement d'entr'ouvrir les grilles de la mémoire et de pousser la porte d'un petit magasin. Un petit magasin niché au creux de la rue Monsieur le Prince, tout près du théâtre de l'Odéon, au cœur du 6e arrondissement de Paris. Posée sur la mer. La mer est tout autour de l'île, comme une ceinture d'opale. Mais elle ne l'étouffe pas, elle la caresse. La mer, c'est le mur, le rempart. Le lagon n'est pas une prison. Il donne la vie. Il fait la vie. Il est la vie. Minuscule point de terre de 6 km sur 2, Tiga s'élève à 76 mètres au milieu de la mer de corail. Vue du large, l'île se présente sous la forme d'un dôme dressé au-dessus des flots. Sa forme, bombée, a donné lieu à une légende qui se transmet par la tradition orale. Elle raconte qu'un rat, poursuivi par les habitants de l'île voisine de Lifou, se sauva sur un rocher, appelé Taetawanot. Il pleura jusqu'à ce qu'une tortue accepte de le transporter sur son dos vers Marais. Mais pour y jouer un mauvais tour, celle-ci s'arrêta entre les deux îles. Et c'est ainsi que la tortue devint Tiga.
Halau kelai ke kuai kiriki te vehi mode tu te hu mei mano ke kuai da koi mi pani ke kuai
ならぬいちゃみぬゆうけらいやしゃみねでこわがこいにはにげくるやとりやにぴしげうちげろあとなめあぶおもなむあぶおもなむからいにやこいにえねいらあむわすべりすふわせぱぬいSi c'est terminé, un épisode de ma vie, à quel équipe pays natal, adieu et bonne chance, jamais, non jamais plus, je n'aimerai de toi. À vous, oh mon amour, à vous, oh mon amour, que l'œil n'y a pas eu, n'y a pas eu.E quai aqui liqui E deve aí poder E tudo terra e manó E quai da coini A ninguém ganhou Tonia de peixinha O tigelo lá toda a vez Amor, oh, bom amor Amor, oh, bom amorI need a boy in a hila. Amu o mon amu. Amu o mon amu. I need a boy.
Le 4 septembre 1774, l'enseigne de vaisseau James Colnett aperçoit à l'horizon une terre inconnue. Il se trouve à bord du bâtiment commandé par le navigateur et explorateur anglais James Cook. Cook baptise cette terre New Caledonia, en l'honneur de l'Écosse. En effet, Caledonia, c'est le nom latin de l'Écosse, celui par lequel l'a désigné les Romains. Mais s'il est vrai que la Nouvelle-Calédonie peut faire penser, seulement de loin, à l'Écosse, et s'il est aussi vrai que c'est une des dernières terres à avoir été découverte, James Cook n'est pas le premier à l'avoir approché. L'archipel néo-calédonien est composé d'une longue bande de terre d'environ 400 km de long, traversée dans toute sa longueur par une chaîne de montagnes, et autour de cette grande terre, comme on l'appelle, un collier d'îles paradisiaques, avec au sud l'île des Pins, au nord les îles Bélep, et à l'est les îles Loyauté, Lifou, Marais, Ouvéa, et la plus petite, Tiga. La Nouvelle-Calédonie fait partie de la Mélanésie. La culture mélanésienne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une émanation d'une culture beaucoup plus ancienne, qui est celle de peuples austronésiens. Ce sont des peuples qui ont quitté le sud de la Chine et l'île de Taïwan il y a de cela 5000 ans, et qui, après avoir traversé la mer de Chine, ont abordé les Philippines, l'Indonésie, la Papouasie, puis ont traversé l'océan Indien jusqu'à Madagascar et l'océan Pacifique jusqu'à l'île de Pâques. venait d'entendre une des formes les plus anciennes de la musique mélanésienne en Nouvelle-Calédonie. Une danse traditionnelle. Un pilou. Les pilous étaient les représentations mimées d'un discours kanak. Ils étaient exécutés à plusieurs occasions, à l'entrée d'un clan. Au moment où, répondant à l'appel du crieur qui proclamait son nom, le clan en question s'efforçait de se présenter dans toute sa puissance. Au moment d'une coutume précise également, ou à l'occasion d'un mariage ou d'une naissance. Ces danses avaient aussi un caractère initiatique. Elles servaient à l'entraînement des jeunes au combat. S'il y avait, dans un lointain passé, des pilous de guerre, aujourd'hui, ces danses miment en réalité des actions pacifiques, comme la pêche, la chasse. Aujourd'hui, non seulement le pilou raconte des histoires du passé, mais il incorpore au fur et à mesure la représentation des événements historiques récents, ou même du quotidien. Vous écoutez RLP, la radio libre, en Périgord.
Waeni, waeni, thahue korichele, thahue lo, yawe, chani, chani, luore di, gogoni, wamoro. Waeni, waeni, thahue korichele, thahue lo, yawe, dai, chani, chani, e gogoni alolo. Waeni, waeni, thahue korichele, thahue lo, yawe chani chani luore dire wa e gogoni alolo.
Les racines du mélanésien sont comme celles du grand banyan. Elle plonge dans la terre, comme un cordon ombilical dans sa mère nourricière. L'homme, né de la terre, vit de la terre et s'endort dans ses flancs. Les vieux racontent que la terre, enroulée en spirale, touchait la lune, et que la pierre sur la montagne était à peine au sec avant le partage des pays. Quand la mer eut déjà laissé au sec un rocher, la lune retira une dent de sa bouche et la posa sur la pierre. La dent resta là. De nombreux vers s'y mirent lorsqu'elle pourrit. Les vers qui tombaient sur la terre se changeaient en anguilles et les petits des lézards prenaient un visage d'homme. Commence à baisser. La montagne s'élève au-dessus de Goyeta. Les hommes nagent et se mettent debout sur toutes les montagnes, à sec. Une anguille mâle continue à nager et aborde à Goyeta. Elle se change encore, là, en chenille. Et c'est là qu'ils vont commencer à devenir des hommes. ils se changent encore. Mais s'ils ont un cœur d'homme, leur peau est encore celle d'un animal. Le nom de ces hommes était Keteva. Tant que leur peau ne changeait pas, leur cœur ne savait pas connaître le bon, ni le mauvais. Ils se transformaient encore. Le premier qui fend leur peau pour arriver au fond de leur cœur et leur donner la parole, c'est Boumé. Boumé, le premier-né, prit une femme pour épouse, et tous pensèrent faire de même. Un fils premier-né lui naquit. Il le nomma Tikanaké. Le deuxième de ses fils prit le nom de Boé-Béalo, et le troisième, Doni-Daoulo. Ces trois hommes, nés de Boumé, sont à l'origine de tous les clans de Nouvelle-Calédonie. Kanake est l'un des plus puissants archétypes du monde mélanésien. Il est l'ancêtre, le premier-né. Il est la flèche fêtière, le mât central, le sanctuaire de la grande case. Il est la parole qui fait exister les hommes. Cette même parole qui établit le système d'organisation qui régit les rapports des hommes entre eux et leurs relations avec l'environnement géographique et mythique. Mais Kanake, qui va à la messe ou au culte pour invoquer le dieu de Jésus-Christ, n'a pas complètement rompu avec les croyances ancestrales. Il semble garder tout au fond de lui une porte de secours, le reliant aux ancêtres. Il continue les rites de célébration de l'igname. S'il est malade et que la médecine ne lui donne pas satisfaction, il se retourne sans complexe vers les pratiques médicales traditionnelles, en relation directe avec la foi aux ancêtres. Les ancêtres soutiennent nos bras et portent notre rêve. Sont de Troyes, Radio Libre en Périgord. Vous écoutez actuellement l'émission La Clé des Chants, l'émission consacrée à la musique, à ceux qui la font, à ceux qui l'écoutent et à ceux qui la vivent. La France de Napoléon III cherche une terre nouvelle, libre de toute occupation européenne, pour y fonder une colonie pénitentiaire. Par ailleurs, la France souhaite renforcer sa présence dans le Pacifique, encore faible face aux Néerlandais et aux Britanniques, alors que ces derniers envisagent d'annexer la Nouvelle-Calédonie. Le territoire, est finalement proclamée colonie française officiellement à Balade, dans le nord-est de la Grande Terre, le 24 septembre 1853, par le contre-amiral Février des Points. Les 250 premiers ouvriers de la transportation arrivent à Port-de-France le 9 mai 1864, à bord de l'Iphigénie. En tout, 75 convois amèneront, entre 1864 et 1897, environ 21 630 immatriculés au bagne. Parmi eux, les déportés de la Commune de Paris. Sur le bateau, qui arrive en vue des côtes de la Nouvelle-Calédonie, une jeune femme regarde la terre qui défile sous ses yeux. Elle s'appelle Louise Michel.
Un certain Clément Jean-Baptiste, qui habitait rue Saint-Vincent, voulant écrire un compliment, trempa sa plume dans le sang. Quelles étaient rouges les cerises que nous chantait Monsieur Clément. C'était plus beau qu'un évangile, c'était des mots de maintenant. Mais il faudrait que nos enfants n'attendent pas comme on attend. Qu'elles mûrissent les cerises que nous chantait Monsieur Clément. Bien sûr, c'est difficile de mourir quand on a 20 ans. Mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps? De république en république, toujours cocu, toujours content, on applaudit les bons truands, au ventre rond, au ventre blanc, qui nous revendent les cerises qu'avait rêvé Monsieur Clément. Tous ces pontifes des églises, tous ces suiveurs de régiments, voudront nous manger tout vivant, mais ils se casseront les dents sur les noyaux de ces cerises du verger de Monsieur Clément. Bien sûr, c'est difficile de mourir quand on a 20 ans. Mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps?
Le 25 juin 1854, sous le commandement du capitaine de vaisseau tardivement Ravel, arrivé sur le navire La Constantine, les militaires français fondent sur une presqu'île au sud-ouest de la Grande Terre, Port-de-France, pour servir de chef-lieu à la colonie. Cette simple garnison deviendra rapidement une petite ville. Le 2 juin 1866, Port-de-France, trop souvent confondu avec Fort-de-France, redeviendra Nouméa. Dès lors, succédant aux missionnaires, les vagues de colonisation se succèdent en Nouvelle-Calédonie. Les nouveaux arrivants viennent de lieux aux noms étranges. Nancy, Orléans ou encore Beaugency.
Ils s'en allaient de Nancy, d'Orléans, de Beaugency ou de Paris. Tous ils rêvaient au pays qui serait toute leur vie, Calédonie. En arrivant au Caillou, il leur faut en mettre un coup, en mettre un coup. Il faut partout défricher et puis planter le café sans s'arrêter. Adieu vertes prairies, les neiges, les champs fleuris. Vous restez ma patrie, mais loin d'ici. Nouvelle-Calédonie, c'est mon nouveau pays. Nouvelle-Calédonie, espoir de vie. Vous arrachiez le nickel avec des piques et des pelles, mais oui des pelles. Nous les enfants de Moindou, de Conné, de Wailou, pensons à vous. Et pour que naisse Nouméa, il en a fallu des bras. Mais oui, des bras. Nous les enfants de Poya, de Poro et de la foi, n'oublions pas. Adieu verte prairie, les neiges, les champs fleuris. Vous restez ma patrie, mais loin d'ici. Nouvelle-Calédonie, c'est mon nouveau pays. Nouvelle-Calédonie, espoir de vie. Les enfants du caillou, enfants du nickel, nous resterons fidèles jusqu'au bout. Les enfants du caillou et vous, nos amis, oui, la Calédonie est notre vie.
Commence alors en Nouvelle-Calédonie la cohabitation difficile de deux cultures diamétralement opposées. La culture mélanésienne, culture de l'être, animiste, culture des ancêtres, culture de l'igname et du tarot, et la culture européenne, culture de l'avoir, matérialiste, culture de la terre. Peu à peu, la fracture culturelle épouse celle du relief. On attribue des concessions aux nouveaux arrivants sur les grandes plaines de la côte ouest, repoussant chaque fois encore un peu plus les Mélanésiens vers la côte est, plus exiguë, le nord, ou vers les îles Loyauté. Apparaissent des plantations de café, de canne à sucre ou de coton. Et dans les plaines de la côte ouest, juchés sur leurs chevaux, ces cow-boys d'un autre monde, les stockmen.
Y'a le bétail à baigner, y'a le bétail à rentrer, et il faut l'abreuver, sinon il va crever. Y'a une vache qu'à veiller, y'a des veaux à marquer, et tout le jour tu dois toujours travailler. Y'a des poteaux à changer, des gaillacs à couper, et les fils barbelés, le feu les a grillés. Le bétail va jouquer, il faut les remplacer, et tout le jour tu dois toujours travailler. Tu aimes l'action, ta petite station, ta liberté, oui ça te plaît. On a de compte à rendre à personne, la vie n'est jamais monotone. On ne voit pas le temps passer, le temps passer. On a de compte à rendre à personne, la vie n'est jamais monotone. On ne voit pas le temps passer, le temps passer. Donc Stockman t'a quitté, car il a préféré s'en aller travailler sur la mine d'à côté. L'argent est vite gagné, il suffit de rouler, et tout le jour tu dois toujours travailler. Ton tracteur s'est bloqué, il a une bielle de couler, il faudrait le réparer, ça prendra la journée. Et ta pipe est crevée, et ton cric est rouillé, et tout le jour tu dois toujours travailler. Tu aimes l'action, ta petite station, ta liberté, oui ça te plaît. On a de compte à rendre à personne, la vie n'est jamais monotone. On ne voit pas le temps passer, le temps passer. On a de compte à rendre à personne, la vie n'est jamais monotone. On ne voit pas le temps passer, le temps passer. Y'a le para à couper et les arbres à saigner. Il faut girobroyer et il faut débrousser. Puis il faut irriguer et tout recommencer. Et tout le jour tu dois toujours travailler. T'as laissé reposer ton vieux rhône d'engrais. L'herbe verte a poussé pendant toute une année. Tes vaches pourront brouter en sécheresse en été. Et tout le jour tu dois toujours travailler. Tu aimes l'action, ta petite station, ta liberté, oui ça te plaît. On a de compte à rendre à personne, la vie n'est jamais monotone. On ne voit pas le temps passer, le temps passer. On a de compte à rendre à personne, la vie n'est jamais monotone. On ne voit pas le temps passer, le temps passer.
Mais si le stockman n'en finit pas de chanter sa ballade, les conflits à propos des terres se multiplient en Nouvelle-Calédonie. Surtout s'il s'agit du lieu sacré, là où reposent les ancêtres. Les premières révoltes éclatent. Il y en aura plusieurs. La plus célèbre est sans conteste celle de 1878, menée par le grand chef Attaï. Trahi par l'un des siens, Attaï sera fait prisonnier et décapité pour l'exemple. Sur son cahier journal, l'institutrice Louise Michel note méticuleusement tous ces événements. Entre 1863 et 1866, un jeune ingénieur des mines, Jules Garnier, parcourt les montagnes de Nouvelle-Calédonie. Il y découvre un minerai jusqu'alors inconnu. Ce nouvel or vert, baptisé garniérite, va bouleverser l'économie de la Nouvelle-Calédonie, mais sous un autre nom, le nickel.
La paye sera bonne. Ouvre, ouvre le bon œil, gare aux lames de ressort. La route peut être un cercueil si tu veux battre des records. On a percé la montagne jusqu'au cœur pour en tirer les meilleurs teneurs. Le bateau est là, ces bateaux ont toujours faim, car ils ont le ventre gros, et t'es loin d'être à la fin de ton boulot. On a percé la montagne jusqu'au cœur.
Au début des années 70, la Nouvelle-Calédonie, grâce au nickel, va connaître un boom économique. Une période de prospérité dont certains se sentiront exclus. Et c'est là, comme l'écrit la journaliste et romancière Jacqueline Sénès, qu'une poignée d'indépendantistes va reprendre le flambeau de la lutte. Ces gens étaient des lettrés. Ils aimaient la littérature et la culture française et étaient tous habités d'une grande tolérance et même pour certains d'une foi profonde. Parmi eux, Jean-Marie Tjibaou, le leader charismatique. Yewene Yewene, son bras droit. Ou encore Yann Séléné Urégué. Ses carnets de voyage en Nouvelle-Calédonie resteraient incomplets sans évoquer la mémoire de Maurice Lenormand. Maurice Lenormand était un Français de métropole. Tour à tour ingénieur agricole, pharmacien et ethnologue, il était avant tout passionné de langue et de culture mélanésienne. Élu député de Nouvelle-Calédonie, il s'intéressera à l'amélioration du statut des autochtones et à la mise en place d'un droit coutumier. Chrétien et convaincu de l'avenir multiracial de la Nouvelle-Calédonie, comme Jean-Marie Tjibaou, il participe lui aussi à la création de l'Union calédonienne. Tout le programme de ce nouveau parti tient dans sa devise. Deux couleurs, un seul peuple. Il mène un combat pacifique et non violent. Il prône une indépendance multiethnique, regroupant dans un seul et même peuple toutes les couleurs de l'arc-en-ciel calédonien.
Un Calédonien, un Mélanésien, un Calédonien, un Européen, un Calédonien, un Polynésien, mais qui connaît bien le Calédonien. Un creuset de race qui ne manque pas de levain, des gens de toute classe, broussards citadins, des élèves en classe, des Calédoniens, ils ont tous leur place, ces hommes de demain. Ils parlent français plus ou moins bien, suivant la vie qu'ils mènent, ils se sentent français de près ou de loin, en pays calédonien. Nombre de ses ancêtres n'étaient pas gaulois, manier le casse-tête, pêcher le mécois, chasser la roussette dans la chaîne les bois, beaucoup la regrettent cette vie d'autrefois. Ils aimaient leur terre et la cultiver, champs et taraudières souvent irriguées, lignames coutumières pour s'enraciner, ils n'avaient que faire du calendrier. Ils voudraient garder son identité, ce qui était sa raison d'être. Ils voudraient sauver ses valeurs passées pour mieux se reconnaître. Puis sont arrivés, l'histoire l'a voulu, blancs et javanais, tonkinois et plus. Ils ont côtoyé nombre de tribus, ils ont travaillé, ils ont survécu. Vieux de la grande terre, sur Minot plateau, vous deviez tout faire, suer sang et eau. Travailler la terre, marquer les troupeaux, vivre de la mer, construire des bateaux. Ils parlent français plus ou moins bien, suivant la vie qu'ils mènent. Ils se sentent français de près ou de loin, en pays calédonien.
Ensuite, arrive sur la scène politique une nouvelle génération d'indépendantistes, plus fougueux, plus radicaux. Des universitaires comme Nidoy Schneslin ou encore Paul Néaoutin, qui avaient, pour certains, vécu de l'intérieur même les événements de mai 68 à Paris. Le 4 juin 1979 est créé le Front indépendantiste, première coalition constitué par les différents mouvements indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Vous écoutez RLP, la radio libre, en Périgord. Les années 80 voient les tensions entre opposants et partisans de l'indépendance s'accroître inexorablement. Les affrontements dégénèrent bientôt en insurrection quasi généralisée. Ils atteindront leur paroxysme avec l'assaut de la grotte d'Ouvéa, le 5 mai 1988. Un an plus tard, le 4 mai 1989, Jean-Marie Tjibaou et Yewene Yewene sont assassinés à leur tour. Aujourd'hui, les tensions semblent apaisées, en Nouvelle-Calédonie. Les accords de Matignon, le 26 juin 1988, et celui de Nouméa, le 5 mai 1998, ont permis la création de régions largement autonomes. Le Sénat coutumier, quant à lui, continue de gérer les problèmes relatifs à l'identité kanak. Ce statut, provisoire, prévoit la tenue d'un référendum d'autodétermination. point d'Imier, au nord-est de la grande terre de Nouvelle-Calédonie. Ici, le grand récif s'entr'ouvre et le Pacifique a noyé le lago. Les vagues, qui se brisent ce soir sur la plage, n'ont plus tout à fait la même couleur. Le sang de ceux du caillou est pareil à celui des hommes de la lointaine métropole. Peut-être un jour sera-t-il bleu et limpide, tout comme l'eau du lagon, là-bas, à Fayaoui, ou Féa. C'était une émission de la série La Clé des Champs. Vous étiez en compagnie d'Éric. Il est temps de fermer à regret nos carnets de voyage consacrés à la Nouvelle-Calédonie. Je pose là mon stylo micro et je vous dis à très très vite sur les ondes de RLP.
Là-bas sur une pierre repose une colombe étendue sans linceul sur la plus noire des tombes. L'homme qui dort ici depuis de très longs mois à cet oiseau blessé avait offert un toit. L'homme est mort un matin, la vie est peu de choses. Tu es à la saison où renaissent les roses, assassiné par ceux qui ne comprennent pas. Que le blanc et le noir se ressemblent parfois. Et la colombe, pendant qu'il tombe, essaie de s'envoler. Mais comme elle est blessée, elle ne peut pas. Alors elle tombe, puis elle succombe. Un oiseau blanc, un homme noir, des gens sont tristes quelque part. Avant de les porter dans la petite église, quand on les ramassa, la poussière était grise. Et l'on vit seulement quelques gouttes de sang. De la même couleur pour le noir et le blanc. Dans le même jardin, aujourd'hui il repose. Quand revient la saison où renaissent les roses, des oiseaux de couleur viennent dans ce jardin. Comme pour s'abriter à l'ombre de Martin.